Radio Prague, les informations.
Le Parlement a levé l'immunité de David Rath, qui a toutefois rejeté toutes les accusations de corruption. Le président Václav Klaus a critiqué les quotas suisses pour les travailleurs d'Europe centrale et orientale. Et puis le début du projet Rozaznyanie, l'Editse 2012, a été différé. Ce mardi, la Chambre basse du Parlement a voté la levée de l'immunité du député social-démocrate David Rath. Cette décision ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre l'ancien gouverneur de la région de Bohême centrale, soupçonné de corruption. Monsieur Rath est maintenu en détention depuis son arrestation le mois dernier. Il s'est exprimé avant le vote devant ses pairs, surveillé par deux policiers, rejetant toutes les accusations de corruption et parlant de vengeance politique à son égard. Il a appelé les députés à ne pas lever son immunité. La séance parlementaire était ouverte au public et aux médias. Arrêté à la mi-mai dans le cadre d'une vaste affaire de corruption, il risque jusqu'à 12 ans de prison s'il est reconnu coupable. Il a été arrêté en possession d'une boîte qui venait de lui être remise, dans laquelle se trouvaient 7 millions de couronnes. 7 autres personnes ont également été arrêtées. Les quotas pour les travailleurs d'Europe centrale et orientale ne devraient pas être appliqués par la Suisse contre l'ensemble des nouveaux pays membres de l'UE. La République tchèque ne participe pas d'une manière significative aux problèmes que les travailleurs étrangers provoquent en Suisse. C'est ce qu'en substance a déclaré le président Václav Klaus à l'issue de sa rencontre avec la présidente de la Confédération suisse, Evelyne Widmer-Schlumpf, qui effectue une visite officielle en République tchèque. Selon la présidente, actuellement 22% des habitants de la Suisse sont originaires des pays de l'Union européenne et la Confédération est obligée de réagir à cette situation. La présidente a cependant souligné que les quotas ne concernent que les personnes qui désirent séjourner en Suisse pendant plus d'un an. L'agence de voyage pragoise Red Green Tours a annoncé sa faillite ce mardi suite à une incapacité de paiement nécessaire pour le transport d'environ 300 personnes vers l'étranger. Cette faillite laisse une centaine de ses clients en rade en Turquie et dans le nord de Chypre. Red Green Tours est la deuxième agence de voyage tchèque à faire faillite cette année. La compagnie d'assurance liée à l'agence en cas de banqueroute va devoir désormais payer le retour des clients tchèques. À l'heure actuelle, 1054 agences de voyage fonctionnent en République tchèque. D'après un récent sondage de l'agence STEM, environ 85% des Tchèques estiment que certains groupes de la population sont discriminés sur le marché du travail. Environ 90% des personnes interrogées ont déclaré que l'âge était le facteur de discrimination le plus fréquent, suivi par l'état de santé et la grossesse. Environ 64% ont également mentionné l'origine ethnique. Le sondage montre que des critères tels que les convictions religieuses ou politiques, l'orientation sexuelle étaient les causes de discrimination les moins cités en lien avec le marché du travail. Et puis, à noter que le projet Rozaznyanie Résonance, l'Editse 2012, a été différé. Ce drame audio ne sera présenté aux visiteurs comme prévu en juin à l'occasion du 70e anniversaire de la tragédie, mais à l'automne prochain. Ce projet s'est en effet heurté aux protestations des familles des victimes de l'Editse, qui lui reprochent de mélanger des souvenirs authentiques avec des épisodes de fiction. À noter que le village de l'Editse, situé non loin de Prague, a été rasé le 10 juin 1942 par les nazis qui se sont ainsi vengés de l'attentat contre le protecteur du Reich, Reinhard Heydrich. On finit par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Norbert. Le ciel sera couvert. Il faut s'attendre également à des passages pluvieux. Les températures seront en légère hausse par rapport à mardi. Elles se situeront entre 16 et 20 degrés pour les maximales. On attend le retour du beau temps pour la fin de la semaine. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet. Restez avec nous.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité aujourd'hui figure tout d'abord la Poste tchèque. Près de 2/3 de ses bureaux, pourraient en effet être fermés dans un proche avenir. Alors ce n'est pas encore une réalité, mais c'est du moins ce qui figure dans le projet qui sera débattu dans les semaines à venir par la Chambre des députés. Plus de détails dans quelques instants. Direction ensuite le château de Prague où se tient actuellement une une exposition consacrée à l'empereur Ferdinand. L'empereur Ferdinand, c'est le dernier souverain à avoir été couronné roi tchèque. Enfin, comme le plus souvent le mardi, place sera faite dans la seconde partie de notre émission à la rubrique Panorama. Un reportage nous emmènera cette fois à un aéroport situé un peu au nord de Prague. C'est là en effet que s'est arrêtée la première étape du rallye Aéro France. L'ambition de ce rallye, donner des ailes aux enfants handicapés, comme nous l'entendrons donc en fin d'émission. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, jusqu'à 2000 bureaux de la Poste tchèque, soit environ 2/3 du total actuel, pourraient être fermés dans un avenir plus ou moins proche. C'est du moins ce que propose l'Office national des télécommunications qui souhaite définir de nouvelles conditions pour l'accessibilité aux bureaux de poste. S'il ne s'agit encore que d'un projet, le texte va néanmoins être prochainement débattu par les députés. La mesure en question concernerait d'abord les communes de moins de 2500 habitants. Les bureaux possédant moins de 4 guichets seraient les premiers susceptibles d'être supprimés.
Podle parametrů, jak to navrhlo ČTÚ, by poštovní síť měla méně než 1200 poboček.
Selon les propositions faites par l'Office national des télécommunications, le réseau postal tchèque ne serait plus constitué que de moins de 1200 bureaux, comme l'a confirmé le porte-parole de Česká pošta, la Poste tchèque, donc Ivo Mravinac. Tous ces bureaux seraient alors situés dans chaque commune comptant plus de 2500 habitants. Pour les habitants des autres communes de moindre population, donc, une distance maximale jusqu'au bureau le plus proche serait alors établie.
Z menších obcí by to nemělo být na poštu dál než 10 kilometrů.
Et en croire le porte-parole de l'Office national des télécommunications, František Malina, les clients de la Poste ne devraient pas parcourir plus de 10 kilomètres pour cela. Pour un grand nombre de Tchèques, cette mesure, si elle est adoptée par le Parlement, pourrait toutefois constituer un grand changement. En effet, actuellement, 9 ménages tchèques sur 10 disposent d'un bureau de poste à moins de 2 km de leur domicile. Présidente du mouvement STAN en Bohême centrale, mouvement qui regroupe les maires des communes sans appartenance politique et d'autres personnalités et élus régionaux indépendants, Viera Kovářová explique quelle catégorie de la population serait d'abord touchée par cette éventuelle réduction.
10 km, ce n'est plus une distance que l'on peut parcourir à pied, c'est une distance qui nécessite un moyen de transport où cela devient un déplacement en voiture. Ce serait un vrai problème pour un nombre relativement important de gens et bien entendu, en premier lieu, pour les personnes âgées.
Outre les services postaux classiques, Česká pošta, société nationale, assure également dans nombre de ses bureaux, et notamment ceux des petites communes, des prestations financières semblables à celles d'une banque ou délivre encore par exemple des extraits du cadastre ou du commerce. Actuellement, la Poste tchèque possède un peu plus de 3300 bureaux, un chiffre qui fait du réseau postal tchèque le deuxième le plus dense en Europe après l'Italie. Le projet de réduction va être étudié par les députés, très probablement avant la fin du mois de juin. La République tchèque étant tenue par la Commission européenne de libéraliser son marché postal à partir de l'année prochaine. On passe à la culture. Au XIXe siècle, le château de Prague est le refuge des rois déchus. C'est le roi Charles X de France qui s'y installe le premier suite à son abdication après la révolution de juillet 1830. Il est suivi par l'empereur autrichien Ferdinand V le Bon qui abdique et cède le trône à son neveu François-Joseph après la révolution de 1848. C'est à l'empereur Ferdinand, qui était le dernier souverain à se faire couronner roi tchèque, qu'est consacrée une importante exposition que les visiteurs du château de Prague peuvent voir ces jours-ci au pavillon de la reine Anne et aux écuries du château de Prague. Plus de détails avec Vassar.
Le règne de Ferdinand V prend fin avec la chute du chancelier Metternich en 1848. L'empereur signe son abdication le 2 décembre de la même année. Le même jour, il arrive par train à Prague où il vivra pratiquement pendant tout le reste de sa vie, soit encore 27 ans. Les Pragois s'habituent à ce nouveau locataire du château et se mettent à sympathiser avec le vieux monarque qui restera le dernier roi de Bohême couronné. Aujourd'hui, l'administration du château de Prague rend hommage à ce roi déchu, amateur de musique et de botanique, qui s'est entouré à Prague d'une petite cour et entretenait des rapports avec les milieux culturels tchèques. Le commissaire principal de l'exposition, Jaroslav Sojka, invite les visiteurs d'abord au pavillon de la reine Anne, où sont réunis quelques 400 objets et documents liés à l'empereur Ferdinand.
Dans les salles du rez-de-chaussée, nous avons évoqué Ferdinand dans les années 1830 et les grands moments de sa biographie, son couronnement à Prague en 1836 ou les cérémonies lorsqu'il a reçu la couronne de Hongrie en 1830 ou celle de Lombardie en 1838. On peut y voir aussi le carrosse de l'empereur. Au premier étage, le visiteur trouvera les intérieurs du château de Prague de l'époque que nous avons reconstitué. Náznakové instalace dobových
interiérů Pražského hradu. Les objets exposés ont été prêtés par plusieurs institutions, musées, châteaux et collectionneurs privés. Les auteurs de l'exposition ont réussi à identifier le mobilier original de l'époque et même les salles où il se trouvait. L'exposition évoque donc plusieurs salons du château meublé en fonction du goût de l'empereur et de son épouse, mais elle illustre aussi par un riche matériel iconographique la vie et le règne de Ferdinand. Jaroslav Sojka.
Grâce à une coopération intensive entre le bureau d'administration du château de Prague et les collections du château de Prague, nous avons réussi à reconstituer l'aspect des intérieurs du château de Prague à l'époque de l'empereur Ferdinand et de son épouse Marie-Anne, issue de la famille royale de Savoie. Et la collaboration avec les connaisseurs éminents de l'art de cette époque, Adam Noël et Martin Aschenbrenner, nous a permis de réunir aussi la collection de tableaux et des statues achetées par l'empereur. Umění Ferdinanda pátého dobrotivého
tedy s Adamem Hnojevem nebo s Martinem Aschenbrennerem. La seconde partie de l'exposition qui se trouve dans les écuries du château présente Ferdinand en tant que collectionneur d'art. Selon le commissaire de cette partie de l'exposition, Adam Hnojev, elle permet aux visiteurs de se faire une idée sur les goûts artistiques de l'empereur.
Cette partie de l'exposition est divisée en plusieurs sections selon les thèmes et les genres classiques. Ferdinand se présente dans ce cas comme un collectionneur éclectique qui achetait des œuvres de l'école de Prague, mais aussi des écoles de Munich et de Düsseldorf. Notre choix met en relief surtout les auteurs tchèques de ses œuvres et les replace dans le contexte européen ou centre-européen.
L'exposition intitulée Ferdinand V le Bon et les arts de son époque sera ouverte au château de Prague jusqu'au 9 septembre.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Comme promis, dans notre émission de lundi, retour dans notre rubrique Panorama à l'aéroport de Vodochody, à quelques kilomètres au nord de Prague. Samedi dernier, une quarantaine de pilotes professionnels et amateurs en provenance de toute la France y ont organisé des vols de découverte, des vols destinés à des enfants handicapés tchèques. La manifestation s'est déroulée dans le cadre du Rallye Aéro France, rallye lancé en 1995. Cette année, les participants à ce rallye parcourent la voie aérienne entre Paris et Bucarest, ouverte en 1920. Magdalena Rosinkova les a rencontrés à l'aéroport de Vodochody.
Panorama.
Panorama.
Nous sommes à l'aéroport de Vodochody, à une vingtaine de kilomètres du centre de Prague. C'est un aéroport privé, destiné pour l'instant aux avions de taille réduite et où s'entraînent également des pilotes de chasse, mais qui aspire à devenir un aéroport international comparable à celui de Prague-Ruzyně. C'est donc sur la piste de l'aéroport de Vodochody que se sont posés samedi midi 14 avions de sport, avec à leur bord les participants à la 18e édition du Rallye Aéro France. Celui-ci emmène les pilotes venus de tous les coins de la France, ainsi que leurs amis, à la découverte de la République tchèque, de la Hongrie, de la Croatie, du Monténégro et de l'Italie. Ce rallye aérien avait comme point de départ samedi matin l'aérodrome de Strasbourg. Nous écoutons les pilotes Christian Dalbin et Thierry Blanza, venus à Prague à bord d'un Cessna 182 qui appartient à leur collègue Bruno Philippe. Nous écoutons Christian et Thierry.
On est parti de nos provinces hier. Rassemblement à Strasbourg et de Strasbourg, Prague.
Ça a duré combien de temps, le vol a duré?
Le vol, il a duré 2h15, très exactement, en ce qui nous concerne. Mais il y a des avions plus rapides qui ont mis moins de temps, des avions un peu plus lents qui ont mis plus de temps. Mais la durée du vol, c'était, on va dire, entre 1h50 et puis 2h45 pour les plus longs.
Ça s'est bien passé ?
Ça s'est très très bien passé. La météo n'était pas extraordinaire, mais ça s'est très bien passé.
Prague non plus.
Non, l'arrivée ici à Vodokody était assez sympathique. Regardez, il y a du soleil. Il ne fait pas très chaud. Il faisait plus chaud à Strasbourg, mais l'arrivée s'est très bien passé, le voyage aussi. Tous les ans, on fait un rallye différent.
L'an dernier, ils sont allés jusqu'au Liban.
L'an dernier, nous sommes allés jusqu'à Beyrouth, en passant par la Grèce et Chypre. L'année précédente, nous étions en Libye.
Et l'année d'avant aussi.
Et l'année d'avant en Libye aussi.
Et l'année d'avant, on était en Afrique, en Afrique centrale.
Donc tous les ans, c'est un rallye différent en fait, une destination différente.
Dans les pays nordiques aussi, un peu partout dans le monde.
Est-ce que vous pourriez dire à quoi ça ressemble, donc un rallye comme ça ?
Ah, c'est difficile à dire. Ça ressemble d'abord à c'est des différentes individualités rassemblées. Dans un avion, les pilotes ou les passagers, ils sont tous seuls à bord. Il n'y a pas beaucoup de dialogue entre les avions. Et un peu, tout le monde suit un petit peu le périple. Et il y a une activité au sol qui consiste à visiter les pays qu'on traverse et à découvrir la plupart du temps des régions qu'on ne connaît pas ou des pays où on n'a jamais été.
En général, ça dure une semaine, c'est ça ?
Ça peut durer, ça peut durer jusqu'à 3 semaines. C'est en principe entre une semaine et 3 semaines, oui. Après, c'est difficile de se libérer sur des périodes plus importantes puisque tout le monde n'est pas retraité comme mon ami Christian ici présent. Il y a des gens qui travaillent et se libérer sur des périodes plus longues, c'est quelquefois plus difficile.
Et vous-même, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Moi, je travaille pour France Télécom Orange. En France, je m'occupe d'un data center.
Les rallyes Aérofrance, nous l'avons déjà dit, ont aussi une dimension solidaire et sociale. Les pilotes organisant des vols de découverte destinés notamment aux enfants handicapés. Thierry Blanza.
Chaque fois que c'est possible, oui, on le fait au cours de chaque rallye. Quelquefois, c'est difficile à organiser localement, mais on l'avait fait il y a quelques temps lorsqu'on était passé en Tunisie. Et chaque fois que c'est possible, oui, ça permet un petit peu d'améliorer les contacts quand on arrive quelque part. Puis les gens nous perçoivent différemment. En principe, les enfants sont contents et localement, les gens sont contents aussi.
Bruno Philippe vit à Paris et pratique l'aviation depuis 25 ans, de manière plus intense encore depuis son départ à la retraite en 2009. Depuis une dizaine d'années, ce médecin cardiologue participe régulièrement au rallye Aérofrance. Il a co-organisé notamment des voyages à tendance humanitaire en Afrique.
Le rallye était organisé par une ONG qui s'appelait Air Solidarité Internationale. Et cette ONG organisait le rallye et on apportait en fait une participation financière pour pouvoir participer au rallye. Et voilà, donc ça arrangeait un petit peu tout le monde. Et puis on faisait connaissance avec les populations locales. Et puis moi qui suis médecin aussi, on apportait un petit peu de notre savoir-faire en passant.
Vous êtes allé dans quel pays ?
Alors on a été essentiellement au Burkina Faso, c'était en 2006, et puis on a été au Congo-Brazzaville, c'était en 2005, voilà.
On a parlé tout à l'heure de votre avion.
Écoutez, c'est un avion, je me suis lancé, je suis resté pendant très longtemps dans des aéroclubs, parce qu'en France, en fait, il y a énormément d'aéroclubs, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais enfin, en tout cas, là-bas, on vole surtout dans des aéroclubs, et puis, à un moment donné, j'ai sauté le pas, j'ai dit, il faut que j'ai mon propre avion, parce que finalement, dans un aéroclub, on est quand même toujours limité par des avions qui sont plus ou moins libres, en fait. Hein, tandis que là, quand on a son propre avion, c'est sûr qu'on vole un petit peu quand on veut. Mm-hmm. Et quand on a du temps, c'est merveilleux.
Qu'est-ce que vous avez comme avion ?
Alors, j'ai un Cessna 182. Hein, c'est un appareil quadriplace que j'ai pu acheter neuf en 2007 et qui est un bel appareil en fait, hein, avec, qui est très bien équipé avec toute l'avionique moderne, avec un pilote automatique, enfin il y a tout finalement, beaucoup de choses, si bien que ça rend les voyages agréables.
Voilà. Je vous remercie bon vent,
merci
comme on
beaucoup.
Dit, qu'est-ce qu'on souhaite aux pilotes ?
Bon vent, oui, bon vent, ça se dit aussi comme pour les marins. Je me souviens en Afrique des enfants africains qui nous appelaient les piroguiers du ciel.
Donc il y a les quatre premiers avions qui vont partir, ce sont le DA-40, ensuite le Cessna de Bernard Saint-Amand. Ensuite,
près de la piste, on retrouve Christian Dalbin qui pilote un des appareils.
On va emmener un petit garçon qui est épileptique, donc il est accompagné de son père ou son grand-père, je ne sais pas.
En effet, j'accompagne mon petit-fils qui s'appelle Martin Malíček. Nous sommes tous les deux ravis parce qu'il n'a encore jamais pris l'avion. Cette opportunité qui nous est offerte par Rally Aero France nous a fait un énorme plaisir.
Alors c'est toujours une émotion de voir les enfants monter dans l'avion puis sortir après, sauf s'ils ont été malades, évidemment.
Didier Carillou est lui aussi pilote. Il assiste au décollage des avions avec des enfants à bord.
Ça va peut-être être un petit peu turbulent à cause des nuages qui sont bas, mais ça devrait être quand même agréable.
Donc il y a quatre avions qui vont décoller en même temps,
dans l'intervalle de quelques minutes, ils vont décoller effectivement. Et puis ensuite, on va mobiliser d'autres appareils pour les autres enfants qui souhaiteront partager ce plaisir. Et on avait fait la même opération il y a 2 ans à Tunis. Et
ça se passe plus ou moins de la même manière partout dans tous les pays?
Alors l'idée, c'est de donner des points caractéristiques que connaissent les enfants pour qu'ils puissent, on l'imagine, reconnaître ce qu'ils vont survoler. Ben là, on a des châteaux, enfin des endroits caractéristiques des environs qui vont être survolés. Là, on va voler assez bas, on sera entre 1500 et 2000 pieds, au plus 2500 pieds, donc ça reste des altitudes qui situent entre 700 et 800 mètres environ. Et bien évidemment, on adapte l'altitude en fonction du relief, mais on va pas monter très haut. Pour profiter au maximum du paysage et bien voir les jolis paysages et puis les châteaux qui vont être survolés. On ne monte pas très haut. Et donc ce matin, on a tous décollé de Strasbourg. Donc oui. C'est un grand changement de passer de Strasbourg, de se retrouver ici.
C'est un petit aéroport quand même.
Ah oui, mais quand même, la piste est longue. Hein. On s'est posé hier sur un terrain qui faisait 700 mètres de long. Là, la piste est infiniment plus grande. Donc c'est pas un gros aéroport.
Combien de mètres ?
Là, il y a plus de 2000 mètres de piste, donc c'est quand même déjà une piste qui est appréciable. Le circuit fait environ 50 km, c'est un triangle et ça va durer un quart d'heure, 20 minutes environ. Donc ça, c'est un premier avion qui décolle et cet avion, il vient de la Vendée, dans l'ouest de la France. Et le pilote qui est aux commandes est un pilote très expérimenté parce qu'il a beaucoup volé en Afrique, il a beaucoup volé en Europe. Et il vient de construire un avion de collection qui s'appelle un Mosquito, un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Il a refait. Donc c'est un vrai passionné, le pilote qui est aux commandes.
Et dites-moi encore, quelle est votre plus belle expérience de pilote?
Ah, j'en ai deux. J'en ai une aux États-Unis en arrivant sur le lac Powell. Et par le coucher de soleil, et il y avait le soleil qui se reflétait dans le lac, et sur les côtés, il y avait des falaises de couleur ocre, et il y avait absolument pas de vent, donc l'arrivée était magique, comme si c'était un rêve. Et j'étais avec ma compagne et puis mon petit garçon qui n'avait jamais volé, et donc ça, c'était un souvenir magique. Et puis un deuxième, c'est au milieu du Ténéré, au Sahara, où j'ai survolé l'arbre Thierry Sabine, qui était l'organisateur initial. Un des organisateurs du Paris-Dakar, et il est mort dans le désert. Et donc il y a un arbre au milieu de nulle part, et j'ai eu l'occasion de le survoler en 2005-2003. Et c'était très émouvant parce que j'imagine il y a peu de pilotes français ou de pilotes au cours qui ont pu survoler en plein désert un tel symbole effectivement de la passion saharienne.
Pour avoir un souvenir aussi inoubliable, il suffit parfois de parcourir 50 km en Bohême centrale. En effet, les vols proposés par Rally Aero France à l'aéroport de Vodochody ont été appréciés tant par les enfants que par les adultes. Un des passagers qui a accompagné son fils handicapé nous a confié ses impressions après avoir quitté l'avion.
C'était notre tout premier vol et c'était merveilleux. Nous avons survolé le château de Veltrusi, la ville de Mielnik et le confluent de l'Elbe et de la Vltava. Nous avons fait ensuite le tour du mont d'Urgip et puis nous sommes revenus. À part ça, nous avons vu des usines chimiques de la région. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau ici, mais c'est aussi intéressant vu d'en haut.
To co není zrovna hezky v té krajině, ale tak taky to je zajímavý si.
C'est la fin pour aujourd'hui du bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Ahoy.